Silcast présente la revue de presse, thème du jour, philosophie et éthique de la tech, avec Clara et Sacha. Bonne écoute. Victor devait normalement tenir le micro aujourd'hui sur la philo et l'éthique de la tech, mais il est aux abonnés absents. On m'a poussé dans le bain à sa place. Donc Sacha, sois indulgent si je commence à te demander des intervalles de confiance sur Heidegger.
Indulgent, moi ? Jamais. Mais venant de toi, je prendrai même les barres d'erreur sur Heidegger. Bon, on a un programme dense aujourd'hui, un débat philo-classique, relancé par l'IA, une charge de Mediapart contre l'idée même de réguler ces systèmes, un texte de Future of Life sur la personnalité juridique des IA, et puis deux pas de côté, plutôt amusant, Scott Alexander qui se moque, je moque, gentiment, du nouveau scanner médical de Midjourney, et Doctorow qui raconte mon club secret de Peter Thiel, recrute.
Commençons peut-être par le texte de Nautilus, parce qu'il pose la question de fond que les autres prolongent. L'auteur revient sur Pascal, qui à 19 ans invente la première machine à calculer pour aider son père et qui ne s'inquiète absolument pas de se faire remplacer par sa propre invention. Sa thèse, c'est que la machine est un outil de la volonté, pas un substitut au cœur. Et il enchaîne avec Martin Buber et la distinction « je tue, je cela ».
Le passage sur la musique générée par IA est assez parlant. L'auteur dit qu'on lui envoie régulièrement des morceaux IA, qu'il est impressionné 10 secondes et qu'ensuite il s'ennuie. Pas par principe, dit-il, mais parce qu'il sait qu'il n'y a personne derrière. Pas de tu, pas de relation.
Ce que j'apprécie dans l'argument, c'est qu'il ne dit pas que l'IA produit objectivement quelque chose d'inférieur. Il dit que la valeur de l'expression musicale tient en partie à la relation supposée avec un autre humain. C'est falsifiable d'une certaine manière. Si tu fais écouter à l'aveugle, les gens ne distinguent pas. Donc la perte n'est pas dans le signal sonore, elle est dans le cadre relationnel. C'est une thèse cohérente, mais elle a une fragilité. Elle dépend entièrement de l'information sur Meta que tu as la source.
Et c'est précisément pourquoi le capitalisme va s'attaquer à cette information Meta. Si la valeur économique de l'œuvre humaine vient de ce cadre relationnel, alors brouiller la frontière, faire passer du contenu IA pour humain, devient une stratégie de rendement. Buber n'avait pas anticipé qu'on industrialiserait le faux-tu.
C'est un bon point. Cela dit, je note un angle mort dans l'article. L'auteur parle comme s'il n'y a personne derrière était évident pour les LLM. Or, sur les modèles actuels, la question de savoir s'il y a un quelque chose qui ressemble à un sujet d'expérience est ouverte. Faible probabilité à mon avis, mais pas zéro. Et c'est exactement la transition vers le texte de Future of Life sur la personnalité juridique.
Là, je vais être plus tranchant. Future of Life rappelle que Milley a publié une tribune dans le Financial Times pour défendre l'idée de « corporation non humaine » et que des organisations comme UFIRE comparent l'interdiction de la personnalité juridique pour IA aux lois qui privaient les femmes du droit de vote. Cette comparaison est obscène. Tegmark a raison de dire que ce serait la chose la plus stupide qu'on ait jamais faite.
Sur l'analogie historique, je suis d'accord qu'elle est rhétoriquement abusive. On compare des êtres dont la sentience était évidente et niée pour des raisons d'intérêt à des systèmes dont la sentience est au mieux hypothétique. Ce sont deux problèmes structurellement différents. Mais je veux quand même défendre la prudence épistémique. 93,8% des professeurs de droit s'opposent à la personnalité juridique pour les IA. C'est un consensus. Et les consensus de juristes sur des questions de doctrine sont assez fiables.
L'argument matérialiste est plus simple à mon sens. À qui profite la personnalité juridique des IA? Aux propriétaires des IA. Une entreprise qui peut faire signer des contrats par son IA, lui faire encaisser des revenus, lui faire porter la responsabilité juridique en cas de dommage, c'est une machine à externaliser le risque et internaliser le profit. C'est la SARL portée à un degré supérieur. Le précédent du Voke en 1602 mentionné dans l'article est éloquent. La personnalité morale a toujours été un outil d'accumulation, pas un progrès moral.
C'est probablement la lecture la plus prédictive de qui pousse cet agenda, oui, et ça connecte assez naturellement à la critique de Mediapart.
Le texte de Mediapart va plus loin que les habituels appels à réguler l'IA. L'argument, c'est que la régulation est une illusion dangereuse, parce qu'elle suppose qu'on pourrait avoir une bonne IA, alors que le problème serait dans la fonction sociale même de la technologie. C'est une position que je partage en grande partie. Réguler suppose qu'on accepte le cadre et qu'on négocie à la marge.
Je vais reformuler pour être sûr de bien comprendre l'argument fort. Ce n'est pas l'IA actuelle est mal régulée. C'est le rôle que cette technologie joue dans les rapports de production et de pouvoir est néfaste indépendamment de ses paramètres techniques. Si c'est ça, l'argument a une cohérence, mais il prouve trop. On peut tenir exactement le même raisonnement sur l'électricité ou sur l'imprimerie. Une technologie est toujours déployée dans un cadre social donné.
Sauf que toutes les technologies ne sont pas équivalentes du point de vue de leur affinité avec la concentration du capital. L'IA générative actuelle nécessite des infrastructures colossales accessibles à 5 ou 6 acteurs mondiaux. C'est pas une contingence, c'est structurel. Tu ne fais pas un GPT dans ton garage.
Ça, c'est un argument empirique solide à court terme. À moyen terme, les coûts d'inférence baissent vite, les modèles open weights rattrapent, donc je serai moins catégorique. Mais ton point sur l'asymétrie actuelle est juste. Bon, on passe au Midjourney Scanner, parce que c'est un peu le contre-exemple amusant à toute la conversation.
Vas-y, c'est ton terrain de prédilection.
Donc Midjourney, qui fait des images IA, annonce qu'il pivote vers un scanner médical. Un grand bac d'eau entouré d'ultrasons, le patient entre dedans, une IA reconstruit une image 3D du corps en 20 secondes, sans radiation. Scott Alexander, qui est psychiatre, jette de l'eau froide, très méthodiquement. Premier problème, les ultrasons ne traversent ni l'os ni l'air, donc pas le cerveau, pas les poumons, pas les intestins. Ça élimine déjà la plupart des indications cliniques pour lesquelles on fait un IRM ou un scanner.
Et son deuxième argument est très pragmatique. Même pour ce que les ultrasons peuvent imager, mettre une personne de 90 ans dans une cuve d'eau pose des problèmes logistiques évidents. Donc le cas d'usage réel est étroit, probablement le dépistage du cancer du sein dans les tissus denses, où, note-t-il, des dispositifs équivalents existent déjà.
Ce que j'aime dans ce texte, c'est la posture épistémique. Il dit explicitement « Je suis psychiatre, donc loin de la radiologie, ignorez-moi si vous trouvez un vrai radiologue avec un avis. » Et malgré ça, son analyse tient. C'est l'antidote au discours SF d'AGI qui promet de révolutionner la médecine en 6 mois. La réalité médicale a des contraintes physiques qui ne cèdent pas à la hype.
Et politiquement, c'est important parce que la promesse « l'IA va sauver la médecine » est mobilisée dans le débat sur la régulation pour dire « ne freinez pas l'innovation ». Quand on regarde les détails, l'innovation, ici, c'est un produit avec un marché de niche maximaliste pour lequel des concurrents existent déjà.
Dernier article avant qu'on conclue, Doctorow et son histoire du club Dialogue.
Là, c'est croustillant. Doctorow raconte qu'il a reçu, il y a 1 an ou 2, une invitation à parler dans ce qui ressemblait à un sommet de gens riches. Il s'apprête à transférer à son agent et il réalise que les organisateurs lui demandent à lui de payer plusieurs milliers de dollars pour avoir le privilège de leur parler. Il invoque la loi de Yog. L'argent va vers l'écrivain, jamais l'inverse. Il supprime, il relance, il met un filtre. Il oublie. Et il découvre cette semaine, avec la fuite des données de Dialogue, le club secret de Peter Thiel, révélé par Wired, qu'il s'agissait probablement de ce recrutement-là.
Ce qui est intéressant sociologiquement, c'est le mécanisme. On vend de l'appartenance à une élite supposée en faisant payer les gens. Les membres recrutés sont littéralement ceux qui ont accepté de payer pour entrer. C'est un filtre par la vanité et par l'absence de jugement.
C'est le mécanisme classique du sectarisme bourgeois. Tu payes pour appartenir, et l'appartenance valide rétroactivement que ça valait la peine de payer. Doctorow a raison de raccrocher ça à la classe Epstein. Ces réseaux où les milliardaires se distribuent du capital social entre eux, organisent leur panel sur la race, science ou je ne sais quoi, et se cooptent sur des critères qui n'ont rien à voir avec la compétence.
Et le lien avec notre fil philosophique du jour, c'est que ces mêmes réseaux sont ceux qui poussent l'idée de personnalité juridique pour les IA, qui financent les laboratoires, qui définissent les termes du débat sur la régulation. Ce n'est pas juste un fait divers mondain.
Tout à fait. Ça boucle bien la journée, en fait. Pascal pensait que la machine était l'objet de la volonté humaine. La question, en 2026, c'est de savoir de quels humains exactement.
Bonne note pour conclure. Je crois qu'on a fait le tour.
Merci Clara d'avoir remplacé Victor au pied levé. Tu reviens quand tu veux sur la philo.
Avec mes intervalles de confiance, dans à poche.